Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien chers frères, il nous reste à étudier encore le sacrement de pénitence et celui d'extrême-onction. Mais au moment où je m'apprêtais à traiter de la pénitence, je me suis bien rendu compte que cela suppose de bien comprendre comment l'homme passe de l'état de pécheur à la justice chrétienne, la justice divine. Et par conséquent, je vais vous faire aujourd'hui un sermon sur la justification. Tout d'abord, pourquoi dire la justice et non pas l'état de grâce? Pourquoi je vous dis, il faut comprendre comment l'homme passe de l'état de pécheur à la justice, et non pas, comme on dit d'habitude, de l'état de pécheur à l'état de grâce. Parce que la grâce fait référence à quelque chose de gratuit, un don personnel, tandis que la justice fait référence à un ordre à l'intérieur de l'homme, mais également de l'homme par rapport à Dieu et par rapport même à l'Église et à la société. Et nous verrons cela. Il est certain que les deux réalités sont étroitement conjointes, la grâce et la justification, puisque saint Thomas d'Aquin étudie la justification en même temps que la grâce. Elle est un effet de la grâce, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, que Dieu donne à l'homme d'être juste à l'intérieur. Justification, cela signifie rendre juste, comme rectification signifie rendre droit. Il ne s'agit pas du sens détourné, commun. On présente sa justification, c'est-à-dire qu'on montre en quoi on a eu raison d'agir comme on a fait. Non, il s'agit d'une transformation intérieure de l'homme. La justification est au cœur de la doctrine du Concile de Trente, et j'ai relu l'enseignement du Concile de Trente, et tout tourne autour de cela, tout simplement parce que c'est la même chose pour l'incarnation et pour la rédemption. Le cœur de l'incarnation et de la rédemption, c'est évidemment la justification de l'homme, le salut apporté par l'homme. Pourquoi le Concile de Trente a-t-il insisté sur cette vérité fondamentale? Parce que Luther, en détruisant la justice chrétienne, détruit la vie chrétienne dans son cœur. Il va faire une fausse vie chrétienne, une ressemblance de vie chrétienne, mais sans justification, donc sans pénitence, plus ou moins sans grâce, et finalement, réellement, là pour le coup, sans justice. Remarquons que ce que faisait Luther n'était qu'un aboutissement de toute une révolte sourde, qui était déjà un peu ancienne. Et aujourd'hui, cette révolte n'est plus sourde, elle est ouverte et déclarée. D'où l'importance de ce sermon aujourd'hui. Première partie, il n'y a d'autre justice que celle de Dieu. C'est la première vérité qu'énonce le Concile de Trente. Et qu'est-ce que la justice? Notre Seigneur Jésus-Christ était juste, il était le juste. Et donc la justice, c'est notre ressemblance à notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas n'importe quelle ressemblance, la ressemblance à Jésus-Christ incarné, à son comportement par rapport à Dieu son Père, par rapport aux hommes, par rapport à soi-même, son comportement qui était toujours un comportement de justice. Et cette justice a été donnée par Dieu à Adam et Ève, mais ils l'ont détruite par le péché, et l'homme n'est plus en capacité de revenir à la justice divine. Déjà, il fallait qu'elle fût donnée à Adam et Ève. Adam et Ève tout seuls n'auraient pas pu la conquérir. Elle est trop élevée, elle est divine. A fortiori, une fois que l'homme est tombé, il est encore plus faible. Mais il faut bien que vous compreniez, mes bien chers frères, que ce n'est pas seulement à cause de la chute de l'homme que l'homme ne peut plus reconquérir la justice divine. C'est dans sa nature, parce qu'elle est trop basse, et la justice qui va le transformer intérieurement doit nécessairement venir de Dieu en tout premier. Le Concile également rappelle que la loi mosaïque, la loi juive, ne suffit pas à sanctifier et à justifier. Pourquoi ? Parce que elle est une manière de dressage, de formation, de préalable, de prise de conscience de la nature du péché. Pour désirer la justice, il faut d'abord avoir le sens du péché. Et pour avoir le sens du péché, il faut que la loi nous rappelle, la loi, c'est-à-dire cette belle sagesse de Dieu, énoncée de façon compréhensible, vienne nous rappeler ce qu'est l'homme, ce qu'est Dieu, quel est notre comportement. Donc il n'y a pas de justice autre que celle qui vient de Dieu. Le rétablissement de la justice de l'homme envers Dieu, c'est l'œuvre de l'incarnation et de la rédemption. Et le Concile de Trente dit, mais faites bien attention, bien que Jésus-Christ soit mort pour tous, tous cependant ne reçoivent pas le bienfait de sa mort, mais seulement ceux auxquels le mérite de sa passion est communiqué. Ça, c'est la grande hérésie de Jean-Paul II, sa première encyclique, Redemptor Hominis. Le Christ s'est uni à tout homme par l'incarnation et il laisse entendre que tout homme est sauvé par là. C'est le problème de la consécration à la messe de Paul VI, la nouvelle messe. Le Christ qui est mort pour tous, il est mort pour tous, mais le salut n'est pas donné à tous. Il n'est donné qu'à ceux qui répondent à l'appel de Dieu et qui alors reçoivent la communication des mérites de Jésus-Christ. Cette vérité, mes bien chers frères, est très importante, à savoir que la justification vient de Dieu. Elle est très importante également pour la contre-révolution. Beaucoup de contre-révolutionnaires estiment qu'ils pourront restaurer la société sans s'appuyer sur Dieu. Ils estiment qu'il y a deux étapes, la première naturelle et la deuxième revenir à la foi, que la société est une chose naturelle, que la foi est une vient après, ce n'est pas vrai. La contre-révolution prétend ramener la justice dans un pays, la justice de fait est impossible à définir et elle ne peut pas exister sans être dans la dépendance de Dieu, dans la dépendance de la justice de Dieu et par conséquent dans la dépendance de la justice de Jésus-Christ. Il faut bien le rappeler, Monseigneur le rappelait très souvent, Monseigneur Lefebvre, en rappelant le règne du Christ roi, c'est la même vérité. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné au ciel et sur la terre pour le salut des hommes que Jésus-Christ. C'est l'Écriture sainte qui le dit. Pas d'autre nom pour le salut des hommes que Jésus-Christ. Et c'est lamentable de voir tant et tant et tant de gens courageux, bien disposés, cherchant à bien faire pour restaurer la France chrétienne et qui, ou la France juste, et qui ne veulent pas se rendre compte que la justice vient de Dieu. Deuxième partie de ce sermon, les étapes de la justification d'un adulte, c'est-à-dire comment arrive-t-on à la justice ? Il faut tenir deux vérités qui sont apparemment opposées. D'une part, la justification est l'œuvre de Dieu, mais d'autre part, Dieu ne donne le salut qu'à ceux qui travaillent avec lui, c'est-à-dire qui agissent. Ils ne peuvent pas agir sans Dieu, mais Dieu ne donne pas sans l'action de l'homme. Jésus, à propos de Sainte Marie-Madeleine, dit « Il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. » Et il y a un problème, mes bien chers frères. Comment une pécheresse peut-elle aimer ? Si elle aime, c'est qu'elle n'est plus pécheresse. Or, nous avons dit que pour sortir du péché, Il faut l'influence de Dieu, et c'est visible chez sainte Marie-Madeleine. Elle a été impressionnée par notre Seigneur. Et donc, notre Seigneur lui donne l'amour, sainte Marie-Madeleine reçoit cet amour, du coup, elle aime, parce qu'elle aime, elle mérite d'être pardonnée. Saint Thomas d'Aquin nous dit, et le Concile de Trente reprend exactement la même chose, qu'il y a six étapes. Premièrement, Dieu convertit le cœur. Convertir, c'est-à-dire qu'il le tourne. Le pécheur est détourné de Dieu, c'est la définition du pécheur. Il s'est tourné vers la créature, donc il est détourné de Dieu. Dieu retourne le cœur du pécheur vers lui. Il lui donne de faire un mouvement de foi. Le pécheur croit, il croit que Dieu est bon, que Dieu est sauveur, que Dieu est rémunérateur, c'est-à-dire qu'il le jugera, mais qu'il veut le sauver avant de le juger. Ça suffit pas encore pour être converti, mais c'est une étape absolument nécessaire. Après ça vient un mouvement de crainte servile, c'est-à-dire la crainte du serviteur. Si je ne fais pas ce que Dieu attend de moi, je serai puni. On n'en reste pas à la crainte servile. Dieu veut mener jusqu'au bout, et il engendre un mouvement d'espérance, d'où la décision de se corriger. Dieu va me punir, vous voyez, j'ai la foi, je sais que Dieu châtie le pécheur, donc je peux être puni, mais je sais même également qu'il le veut sauver, donc ce mouvement d'espérance, je me tourne vers lui pour qu'il me sauve, et Dieu donne le fruit de cette espérance, qui est la charité, l'amour de Dieu, parce qu'elle a beaucoup aimé, il lui sera beaucoup pardonné. Il donne cette charité, et alors dès que l'homme reçoit la charité, il entre dans l'amour de Dieu, et cela est la justification. Et il y a une sixième étape, qui est un mouvement de crainte filiale, c'est-à-dire que le pécheur, lorsqu'il a retrouvé l'amour de Dieu et la justice divine, il craint non plus cette fois-ci d'être puni, même si nous savons que nous sommes faibles, il craint surtout de déplaire à Dieu, de déplaire à son Père céleste. Et ça, c'est une très belle crainte qui est parfaitement compatible avec l'amour et qui est même le sommet de l'amour, parce que c'est la crainte qui donne du prix à l'amour et qui, nous sachant faibles, espère ne pas perdre cet amour de Dieu. Alors le Concile de Trente insiste beaucoup sur ce double mouvement de Dieu et de l'homme. Cette disposition ou préparation est suivie par la justification elle-même, dit le Concile de Trente, qui n'est pas seulement rémission des péchés. Il faut faire bien attention, vous voyez, parce que je vais vous l'expliquer, Luther disait le contraire. Qui n'est pas seulement rémission des péchés, c'est pas seulement que vous êtes pardonné, mais qui est à la fois sanctification, vous rentrez dans la sainteté de Dieu, rénovation de l'homme intérieur qui est changé. Comment ? Par la réception volontaire de la grâce et des dons du Saint-Esprit, des dons de Dieu. Et saint Thomas, pour être plus clair, dit Dieu convertit le cœur, et après ça, il pose la question, faut-il un mouvement du libre arbitre, c'est-à-dire de notre libre volonté, vers la foi ? Il dit pas simplement un mouvement de foi, mais faut-il que notre liberté acquiesce à la foi? Et à la troisième étape, il dit, faut-il que notre liberté acquiesce par l'acte de crainte servile? Puis quatrièmement, faut-il que notre liberté acquiesce, entre dans les vues de Dieu, par l'acte d'espérance, qu'elle réponde? Et cinquième étape, faut-il que notre liberté entre dans la charité? Eh bien oui, ça c'est évident. Alors là, pour le coup, c'est évident. La charité, c'est justement la liberté et la volonté qui se donne à Dieu. C'est très important, mes bien chers frères, quant à l'apostolat. Vous ne pouvez pas griller les étapes. Vous ne pouvez pas convertir un pécheur. Il n'y a pas de truc, vous voyez. Il suffit pas de l'amener à la messe, il suffit pas de l'amener au confessionnal, il suffit pas, vous mettez un pécheur au confessionnal, s'il n'a pas la foi, on fait plus de mal que de bien. Alors, Dieu convertit le cœur. Ça suppose chez l'apôtre qui veut faire un travail d'apostolat, de prier Dieu de convertir le cœur, de prier Dieu de toucher le cœur du fidèle, enfin de celui qu'on veut rendre fidèle. Après ça, le mouvement de foi, et il faut lui enseigner la foi, au moins les minimums, Dieu, Jésus-Christ, la rédemption, le salut. C'est ce que les musulmans n'ont pas, voyez. Ils n'ont pas le salut, ils n'ont pas la rédemption. Et puis il y a un mouvement de crainte servile, c'est-à-dire qu'il faut montrer la gravité du péché. Maïti Ingertaner, lorsque son bourreau reprend contact avec elle, elle surmonte son horreur, elle le reçoit chez elle, elle l'oblige à demander pardon. Il lui dit « Mais c'est vraiment nécessaire ?» Elle dit « Oui, vous vous rendez pas compte du mal que vous avez fait. Tant que vous n'aurez pas demandé pardon, vous ne pourrez pas... Il était attiré par la sérénité de cette femme. Vous ne pourrez pas avoir la sérénité du chrétien. Et donc, il faut montrer la gravité du péché. Et l'étape juste après, en réalité, c'est plus ou moins simultané, mais ce sont quand même des étapes nécessaires. Ce mouvement d'espérance, il faut montrer que le salut est possible. Il faut surtout pas laisser dans le désespoir, bien entendu. Et alors enfin, on suscite la charité en montrant l'amour de Dieu. Et alors, une fois que c'est cela, on peut mener au confessionnal, parce que le bon Dieu au confessionnal donnera l'achèvement à ce mouvement par la charité pleine, enfin la charité. De même, on peut mener à la communion, parce que la communion, c'est la charité, mais évidemment après le confessionnal. Et c'est vrai également pour la conversion du pays. Je vous parlais tout à l'heure de tous ceux qui, avec générosité, veulent sauver la France. La France ne pourra pas être sauvée tant qu'elle n'aura pas compris que Dieu veut lui tourner le cœur vers lui, tant qu'elle n'aura pas retrouvé la foi, tant qu'elle n'aura pas eu ce mouvement de crainte, elle qui est devenue orgueilleuse depuis la Révolution française, tant qu'elle n'aura pas fait ce mouvement d'espérance, qu'elle fait dans les périodes de catastrophe, mais qu'elle oublie bien vite. Et puis, tant qu'elle ne sera pas revenue à la charité. Dernière partie du sermon, une fois que l'homme est justifié, eh bien, il doit poursuivre la vie de juste à l'imitation de Jésus-Christ. Et donc, la première chose que dit le Concile de Trente, il doit porter sa croix à la suite du Christ. Un homme juste poursuit. Parce que vous voyez, Luther a tout faussé, et en réalité, le but de Luther était de rendre l'homme libre de suivre ses caprices. Et donc le Concile de Trente rappelle, une fois qu'on est engagé dans la justice divine, eh bien on poursuit le chemin de cette justice. On doit continuer, dit le Concile, à croître dans la grâce. Et il nous rassure aussitôt, avec cette célèbre phrase de saint Augustin, Dieu ne commande rien d'impossible, mais en commandant, il t'invite à faire ce que tu peux et à demander la grâce pour ce que tu ne peux pas, et il t'aide pour que tu puisses. Luther disait, ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre en bon chrétien, il faut accepter de ne pas pouvoir vivre en bon chrétien. Et le Concile dit, mais tout vient de la grâce de Dieu. Le Concile rappelle que la pénitence donne une seconde planche de salut, mais ça, nous le verrons dans le prochain sermon. Il rappelle que la vie ici-bas est une lutte, parce que Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans nous, et que donc la justification ne supprime pas toute peine temporelle, elle ne guérit pas complètement le foyer de péché. Il reste des désordres en nous qu'il faut justement complètement guérir, et c'est pour ça que nous avons toute la vie sur terre, pour que la blessure soit guérie au moment de la mort et que nous puissions entrer directement au ciel. Je termine en comparant justement cette belle justice avec la fausse justice de Luther. Pour Luther, l'homme n'est pas changé intérieurement, simplement Dieu a la bonté d'oublier que l'homme demeure pécheur. Nous, c'est le contraire, nous sommes changés profondément, intérieurement, nous sommes rectifiés. Et puis je voudrais très brièvement comparer la justice chrétienne à la justice républicaine. Parce que, attention, hein, les instituteurs des années 1900 prétendaient faire vivre, et Jules Ferry, faire vivre les enfants dans la justice républicaine. Ça, c'est une justice sans Dieu, c'est une justice contre Dieu. C'est une fausse justice parce qu'elle elle a les apparences de la justice, mais elle se passe de Dieu. Alors voilà, prenons bien conscience, voyez, de cette œuvre que le Christ est venu réaliser en nous par l'incarnation et par la rédemption. Entrons dans cette œuvre. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, tous les sermons, pas le mien d'ailleurs, toute la doctrine de l'Église sur le Christ, toute la doctrine sur les sacrements, c'est une doctrine de justification au sens très noble du terme, c'est-à-dire d'acquisition de la justice de Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.